Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la course contre la montre dans les EHPAD.
Les vaccins vont arriver avant la fin de l'année, mais il faut d'abord le consentement des pensionnaires.
Il faut travailler en amont, avoir la liste vraiment des résidents qui souhaitent être vaccinés pour qu'on puisse le faire en très très peu de temps.
Reportage à Toulouse. Dans ce journal également, cette mère communiste menacée par des dealers. Et puis les 10 ans du printemps arabe, nous avons retrouvé les premiers révolutionnaires en Tunisie.
RTL Matin.
Demain soir, vous serez nombreux à être en vacances et si vous avez choisi la montagne, vous le savez, vous ne pourrez pas utiliser les remontées mécaniques qui resteront fermées. Difficile dans ces conditions de s'offrir de belles descentes, sauf à avoir des mollets en acier, mais il n'y a pas que le ski, on le répète, il y a aussi les promenades à raquettes. Et visiblement, à en croire l'incroyable succès de ce fabricant de Haute-Savoie, nous allons en voir beaucoup cet hiver, Serge Puyot.
Dans l'usine TSL d'Annecy-le-Vieux, la fabrication de raquettes à neige s'effectue désormais 24 heures sur 24.
Donc je suis en train de mettre les petits crampons en dessous des raquettes et puis ensuite ça passe à la visseuse. On est dans une grosse période de production, pas assuré.
Je pose les cales et puis après ça va à l'emballage. Ça chante pas, il faut envoyer.
Philippe Gallet est le PDG de cette entreprise, leader mondial dans son domaine. En temps normal, il enregistre 1000 commandes de paires de raquettes par jour, mais désormais ce chiffre explose.
Et là, on a eu 10 000 paires tous les jours pendant 10 jours. Maintenant, on est à 100% plus que ce qu'on fait d'habitude. Sur la période novembre-décembre, on faisait 30 000 paires de raquettes et là, on doit faire 60 000. Donc du coup, on est complètement débordé, on va dire. On est en train de monter une deuxième équipe le soir, une troisième équipe la nuit pour essayer de répondre. Jour et nuit, on n'arrête plus. On n'a jamais vendu autant de raquettes. On doit produire en 2 mois ce qu'on produit généralement en 6 mois.
TSL a dû doubler ses effectifs et embaucher une centaine d'employés supplémentaires pour pouvoir produire jusqu'à 3000 paires de raquettes par jour.
2020, année de la raquette, reportage signé Serge Puyot.
2020, année du vaccin aussi, puisque la campagne commencera finalement un peu plus tôt que prévu.
Sous pression, l'Agence européenne du médicament qui doit donner son feu vert se réunira lundi, ce qui devrait permettre de distribuer les premiers vaccins avant la fin du mois. Premier servi, les EHPAD, mais ils devront d'abord obtenir l'autorisation des résidents. Patrick Tégéraud, à l'EHPAD de la Pastelière à Toulouse.
C'est un petit peu plus de pression pour la directrice Isabelle Gauthier-Blasco. Il va falloir très vite recueillir les consentements, car les vaccins ont 4 jours d'efficacité dès qu'ils sont sortis de leur congélateur.
Toute la problématique est là, c'est pour ça qu'il faut travailler en amont, avoir la liste vraiment des résidents qui souhaitent être vaccinés, pour qu'on puisse le faire en très très peu de temps.
Sur 88 résidents, seule une dizaine a toute sa tête, comme on dit. André, 83 ans, n'est pas pressé.
Moi, j'aimerais bien voir ce qui se passe autour avant de faire le premier pas. Je suis pour, mais pas tout de suite.
Paulette a 89 ans.
Pour ma part, j'ai toujours fait confiance à la médecine, mais dans ce cas, c'est un peu plus délicat. De toute manière, nous ne serons pas vaccinés sans notre consentement.
Alors ce consentement, vous êtes prête à le donner ?
Oui, si j'ai toutes les garanties, oui.
La directrice ne se fait pas d'illusions. Elle sait très bien que le vaccin ne fera pas l'unanimité.
Je pense que le souhait, c'est que le maximum soit vacciné pour que ça couvre tout le monde et qu'on reprenne une vie sereine dans la résidence. Après, effectivement, c'est pas certain que tout le monde veuille être vacciné.
Une lettre d'information est partie hier à destination des médecins traitants, des résidents, de leur famille et de leurs tuteurs.
Reportage signé Patrick Tégéraud. Aux États-Unis, où on a atteint hier un nouveau triste record, plus de 3 700 morts en 24 heures, le vice-président Mike Pence et sa femme se feront vacciner demain devant les caméras pour encourager les Américains. Et chez nous, au pays de Pasteur, le gouvernement marche sur des œufs. Vous le savez, les Français sont méfiants. Alors l'exécutif va se mettre sciemment en retrait sur la question, Vincent Derosier.
Oui, faites-vous vacciner. Cette petite phrase, personne ou presque n'ose la prononcer au gouvernement. Seul le Premier ministre s'est risqué à faire cette recommandation aux Français. Face à la défiance de l'opinion, l'exécutif craint d'abord que la parole politique ne fasse qu'empirer les choses, alors que la stratégie du gouvernement dévoilée hier par Jean Castex repose sur 2 piliers, la confiance et la transparence. Pour y parvenir, ce sont une nouvelle fois les blouses blanches qui sont appelées à la rescousse. L'idée, explique un conseiller, c'est de laisser le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, faire de la pédagogie. Ce sera à lui aussi de s'expliquer en cas d'éventuels effets secondaires du vaccin. Application du principe de précaution oblige. Nous, on parlera surtout de logistique, confirme un ministre. Et puis le gouvernement ne veut pas précipiter précipiter les choses alors que les doses vont arriver au compte-gouttes et que la vaccination massive ne débutera qu'au printemps. Le mot d'ordre, c'est donc plus que jamais prudence et modération.
Vincent Derosier, dans ce contexte, le télétravail a encore de beaux jours. Et ce n'était pas pour déplaire aux cadres du privé qui sont 8 sur 10 à vouloir continuer d'après une enquête de l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Ils sont 72% à souhaiter au moins un jour de télétravail par semaine.
RTL, il est 8h06. Le principal accusé au procès des attentats de janvier 2015 va donc faire appel.
Le franco-turc Ali Riza Polat, reconnu complice des frères Kouachi, il a pris 30 ans. Les peines prononcées vont jusqu'à la perpétuité pour les accusés qui ont fui en Syrie. Le procès douloureux aura duré plus de 50 jours. Michel Catalano, le patron de l'imprimerie de Dammartin où s'étaient réfugiés les deux frères terroristes, a tenu à être là du début à la fin.
C'était important qu'il y ait un procès. Ça, j'en suis maintenant persuadé pour les victimes. Même si ça a été très difficile pour moi, à chaque fois, j'ai essayé d'être là le plus souvent possible pour pouvoir assister, comprendre. Tout le monde a pu s'exprimer. Donc ça, c'était important pour nous. Et je pense que ça m'aidera beaucoup dans les années à venir et dans ma reconstruction personnelle. Et je crois que c'est pareil pour toutes les victimes. Ça va me permettre de peut-être pouvoir écrire un nouveau chapitre de ma vie.
Propos recueilli par Sébastien Rouxel. Autre verdict au procès de la mort de la petite Fiona. Cette fois, la mère, Cécile Bourgeon, a pris plus que son ancien compagnon, 20 ans de prison. C'est la première fois qu'elle est condamnée aussi lourdement. Elle va se pourvoir en cassation. Il pourrait donc y avoir un cinquième procès.
Après la pause, une mère du Val-de-Marne menacée par des dealers. Son fils a d'ailleurs été lui-même agressé. On en parle dans un instant.
RTL Matin.
RTL, il est 8h09, la suite du journal de Jérôme Florin. Une élue menacée par des dealers, ça se passe dans le Val-de-Marne.
À Chevilly-la-Rue, la maire communiste ferait l'objet de représailles. C'est en tout cas la conviction de ses collègues qui montent au front pour la défendre, d'autant plus que son fils a été récemment agressé, Valentin Boisset.
Lundi soir, un homme se cache dans un buisson devant le domicile de la maire. Il attend le retour de son fils de 14 ans. À son arrivée, il le frappe d'un coup de poing au visage, puis s'enfuit. L'agression a choqué. Dans son collège, Allison est une camarade.
Je lui ai dit, je sais que c'est difficile, il n'était pas très très bien.
Cette agression s'inscrit en réalité dans une série d'actes d'intimidation envers l'élu.
Sa voiture avait été vandalisée.
Mais aussi des tirs de mortier contre sa maison. Stéphanie Domain ne souhaite s'exprimer que par communiqué, par peur des représailles. Selon elle, des trafiquants de drogue qui sévissent sur sa commune sont en cause. Ils viendraient des villes alentours, constat partagé par les habitants.
Si vous voulez des réponses, c'est là, il est reçu. Trafic, etc.
C'est abject, c'est sur le problème de police, c'était le 85e.
Son domicile. Il est désormais sous la protection de deux agents privés. L'association des maires du Val-de-Marne, dont Luc Carvounas est le président, appelle à la fermeté.
C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Les condamnations ne sont pas assez fortes. On demande juste que la loi soit appliquée. Et parfois, on se sent un peu seul.
L'enquête est toujours en cours pour tenter de retrouver le ou les responsables de ces actes d'intimidation.
Valentin Boisset.
Il y a 10 ans, jour pour jour, un jeune vendeur ambulant se donnait la mort en Tunisie.
La police venait de saisir sa marchandise et son étal. Le geste de cet homme de 26 ans allait servir de déclencheur à une immense révolte populaire qui allait chasser Ben Ali du pouvoir puis d'autres dictateurs de la région. C'est ce qu'on a appelé le printemps arabe. Notre correspondant Mathias Reynal est retourné pour RTL, là où tout a commencé, à Sidi Bouzid, dans le centre de la Tunisie. Son reportage.
Dans ce café populaire règne une atmosphère de nostalgie. Mohamed Bouazizi était un enfant du quartier. Son geste est encore dans toutes les mémoires.
Il s'est immolé vers 10h du matin. Le soir, il y avait déjà des manifestations. C'est les jeunes qui ont commencé. Moi, j'étais l'un d'entre eux.
Alaa avait 28 ans. À l'époque, c'est le chômage qui l'a poussé à défier le régime.
J'avais deux frères sans travail qui restaient à la maison. Ma sœur est professeure d'anglais, diplômée depuis 2003. Elle était sans emploi.
Une cicatrice de 5 cm lui barre le front. Il a perdu ses 4 incisives, des souvenirs douloureux de la répression.
C'est la police qui m'a fait ça, mais tous les gens sont sortis ensemble, on n'avait plus peur.
Hamza avait 23 ans en 2010. Son père était membre du parti de Ben Ali. Il en rigole car cela ne l'a pas empêché de battre le pavé contre la dictature. Aujourd'hui, il est amer.
17-12-2010, la date qui a changé tout le monde, sauf Sidi Bouzid.
On n'avance pas, regrette Hamza. Le processus prend du temps, c'est normal, c'est une révolution. Il lui faudra peut-être 10 ou 15 autres années pour aboutir, concède le jeune homme. La déception s'est installée chez ceux qui ont provoqué la chute de Ben Ali, mais c'est un mélange de sentiments contradictoires. mémoire, pointe aussi beaucoup de fierté d'avoir été les tout premiers à descendre dans la rue.
Le reportage de Mathias Reynal en Tunisie pour RTL en football. Nous sommes réalistes, ce sera dur contre Lille. C'est Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui le dit ce matin. Les deux clubs s'affronteront dimanche. Lille reste en tête après avoir battu Dijon 2-0. Même score pour Paris contre Lorient. Tous les autres résultats sur notre site RTL.fr.
On termine avec l'histoire du jour.
3, 2, 1... Triste symbole de la fin de l'ère Trump aux États-Unis, la ville d'Atlantic City, où le milliardaire avait fait construire un casino à son nom en 1984, a décidé de mettre aux enchères, non pas le casino, mais le droit d'appuyer sur le bouton pour faire exploser le dit casino qui était à l'abandon depuis 6 ans après avoir connu plusieurs faillites. Le bâtiment est en train de se désagréger, des pans de murs tombent régulièrement au sol. Et celui qui s'offrira ce plaisir d'appuyer sur le bouton le 29 janvier financera une bonne cause puisque l'argent ira à une association pour les jeunes.
Je vais essayer moi aussi. 3, 2, 1.
Ça marche aussi avec le câble.